1, 2, 1, 2, ça marche, super. Vous avez bonne mine pour un dimanche matin de braderie, là. Bravo. Est-ce que quelqu'un se souvient de la prédication de dimanche passé?
J'étais Asaph.
Bravo, Asaph. Qu'est-ce qu'il a fait, Asaph?
Asaph.
Il a fait quoi, Asaph?
Des psaumes.
Il a écrit des psaumes, puis on a lu en particulier le psaume 73. Bravo.
Oui.
Et puis aujourd'hui, en fait, je vais un petit peu répéter ce que André a dit la semaine passée, mais d'une manière un peu différente. Alors la semaine passée, on a parlé d'Asaph. Aujourd'hui, on va parler de Caleb. Alors c'est un personnage bien connu de l'Ancien Testament, Caleb. Et c'est un personnage assez particulier, avec un caractère particulier et une revêtue d'une onction particulière de Dieu. La semaine passée, on avait André nous a montré que le psaume était divisé en deux parties en fait. Il y avait une première partie où Asaph il regarde un peu à lui-même, il analyse un peu ce qui va autour de lui selon ses idées à lui, et puis on arrive à une deuxième partie où là il invite Dieu, sa foi se remet en route, et puis il voit les choses de manière différente. Et son cœur a une attitude, une disposition différente.
C'est Daniel Beugli qui parle.
Et Caleb aussi, il a tranché avec son temps. Il était au milieu d'une génération qui était un peu perdue dans ses pensées, qui avait peur de l'avenir. Et puis, voilà que Caleb, c'est une figure de courage, de détermination, un combattant. Une foi agissante, une foi opérationnelle, une foi qui va faire des choses. La première fois que Caleb est mentionné dans la Bible, c'est dans Nombre 13. Donc, je vais un peu brosser Nombre 13, 14. Des fois, il faut qu'on cherche des histoires pour illustrer quelque chose, et des fois, la Bible elle-même, elle illustre tellement bien que ça n'a rien de chercher trop loin. Donc, je vais prendre Nombre 13. Donc, rappelez-vous, c'est Israël vient de sortir d'Égypte, enfin. Ils ont fait quelques kilomètres en direction de la terre que Dieu a promis à l'ancêtre Abraham, ça fait quelques centaines d'années. Ils sont prêts à rentrer, mais il faut rentrer. Et là, Moïse, qui est leur chef, il va envoyer des explorateurs pour un peu visiter, espionner ce pays, puis voir qu'est-ce qu'il faut peut-être mettre en place pour conquérir. Parce qu'il s'agit d'une conquête et il s'agit aussi d'un jugement de Dieu sur ces nations qui sont arrivées au comble du péché. Et donc, Caleb est un de ces 12 espions. Et puis, on se souvient de Caleb et on se souvient aussi d'un autre espion qui était de la même équipe. Vous vous souvenez lequel c'était?
Josué,
bravo. C'est les deux qu'on se souvient. Sur les 12, il y en a 10. On cite juste leur nom au départ de la mission. Et puis après, on les oublie. Alors voilà. Moïse envoie un chef de chaque tribu et envoyé en exploration dans le pays à conquérir. Il y a 12 tribus. Il y a 12 princes, en fait. Donc, chaque tribu choisit son représentant. Et puis, c'est pas n'importe qui. C'est des princes. Donc, c'est des gens sûrement qui ont une connaissance de la tribu, qui ont une responsabilité dans la tribu, qui ont une influence dans la tribu. Et sur ce qu'ils vont peut-être raconter après, soit ils vont encourager le peuple, soit peut-être ils vont le décourager. Parce que c'est des princes. Parce qu'ils ont été choisis désignés par leur peuple. Alors Moïse les envoie et il leur dit, bon, voilà ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez nous rapporter comme info. Ils font une évaluation de terrain, là. Et puis, il leur dit, regardez si le pays est bon à habiter ou pas. C'est intéressant, hein. Dieu leur offre une terre. Voilà. Le genre de ville, si elles sont fortifiées ou pas. Si ça sera facile de conquérir ces villes ou si ça sera easy, on entre dedans. On fait le travail et puis voilà. Si le terrain sera fertile ou pauvre, là on pense à l'agriculture. Le peuple devra vivre, le peuple devra cultiver, le peuple devra se nourrir. Est-ce que ce pays-là, il est bon pour l'agriculture? Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Est-ce qu'il y a du bois de chauffe pour cuisiner? Est-ce qu'il y a du bois de construction pour construire? Est-ce qu'il y a des arbres fruitiers pour manger? Est-ce qu'il y a des arbres de pharmacopée pour se soigner? Et donc, ces douze explorateurs, ils vont rapporter. Et puis, après 40 jours, ils reviennent. Et voilà ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Jusque-là, c'est bon. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et là, il y a deux gars qui étaient arrivés avec une grappe de raisin tellement grosse et tellement lourde que ben, il devait être deux pour la porter. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Anak, c'est un homme, mais selon la croyance du moment, lié au Dieu. Donc c'est plus qu'un homme, en tout cas aux yeux de ceux qui le regardent. Donc quelqu'un qui est à craindre. D'autres peuples habitent sur tout le territoire. On n'aura pas seulement à conquérir un peuple, mais on aura à conquérir plein, différents peuples dans différentes régions. Et là, Caleb, il sort une phrase qui définit vraiment son caractère. Donc, les 10 espions, là, enfin, ils sont en train de murmurer, le peuple se mit à murmurer, et là, il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. OK? Là, Caleb, il est deuxième partie du psaume 73. On est d'accord? Les 10, là, ils sont première partie du psaume 73. Donc, une attitude de cœur qui va, d'où va découler notre action ou notre non-action. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, effectivement. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et là, on peut le prendre au sens littéral, parce que, à l'époque, c'était bien ce qui se passait. Donc, il y avait quand même de la tension dans l'idée de conquérir cet endroit, c'est clair. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Et plus loin, nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, encore une fois, qui sont tous issus de géants. À nos yeux et à leurs yeux, alors là, c'est la phrase qui définit l'attitude du peuple, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Alors, je me rappelle d'une fois, c'était pas en Suisse, mais on était dans une réunion, puis la réunion est un peu longue, peut-être un peu ennuyante. Et puis, donc, chacun s'occupe un peu, voilà. Et puis, il y a un participant, là, il a attrapé une sauterelle, il l'a regardée, il a commencé à la caresser, puis après, il l'a arraché une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes, et après, il a jeté la sauterelle. Voilà, je raconte cette histoire pour l'illustrer, c'est quoi une sauterelle. OK? À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et c'était ancré dans leur tête, là. C'était leur mentalité. Première partie du psaume 73. L'histoire continue dans Nombre 14. De nouveau quelques extraits. Là, c'est l'assemblée qui se soulève. Elle pousse des cris. Cette assemblée, ce peuple, il est sorti d'Israël avec, il était libéré. Et là, il est devant la conquête, il se dit impossible. Et donc, ils crient, ils pleurent toute la nuit. Parce que tout d'un coup, c'est tout leur avenir qui s'écroule, c'est tout leur monde, en fait. C'est tout leur espoir qui tombe. Et là, ils se tournent vers Moïse et Aaron. Donc, à cette époque-là, Moïse et Aaron sont les représentants de Dieu sur terre. Donc, murmurer contre Moïse, c'est murmurer contre Dieu à l'époque. Toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes, pas que nous, mais nos femmes et nos petits-enfants, les enfants de nos enfants, deviendront une proie. Ah oui, ils bouffaient les gens. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Première partie du psaume 73. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel il est fâché et il lui dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que je lui ai donnés? Et c'est vrai, quand on chante l'Éternel descend, c'est ça? Je ne me souviens pas des paroles. Le Saint-Esprit descend, pardon. Là, on est au Nouveau Testament. Voilà. Le Saint-Esprit descend, les paralytiques marchent. On est juste en train de proclamer que c'est ça qui se passe avec Dieu. On n'est pas forcément en train de proclamer qu'aujourd'hui, il y a des paralytiques qui vont marcher. C'est possible. Mais on s'adresse à ce Dieu-là qui permet que des aveugles voient. Et on est juste en train de rendre Dieu très important. Alors bien sûr que ça peut arriver aujourd'hui, mais c'est aussi se rappeler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait encore. Et c'est regarder au Dieu de la partie deuxième du psaume 73. L'Éternel lui dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Dieu, il est en train d'envoyer son peuple faire justice. Et pour lui, cette justice-là, c'est de la justice solide, quoi. Alors, il n'est pas d'accord que son peuple, il fasse du n'importe quoi. Et il va amener son peuple à comprendre sa justice. Et pour ça, il va utiliser les grands moyens. Il va les envoyer pour quelques années dans le désert. Et cette génération-là, à cause de ces 10, à cause de la réaction du peuple, ils vont pas entrer dans la terre promise. C'est la génération suivante qui va le faire. Puis on verra que leur mentalité, à ce moment-là, sera différente. Alors regardons un peu la mentalité de cette génération. D'un côté, il y a le monde des Égyptiens. Ils ont connu ça pendant des dizaines, des centaines d'années. Et ça s'est assez mal fini. Hein. Ils étaient un sujet de haine. En tant que peuple d'Israël, ils étaient un sujet de haine des Égyptiens. On les a accablés de travaux pénibles. On leur a fait construire des villes. Ils étaient soumis à un esclavage dur. Leur vie était amère. Ils ont été empêchés de devenir nombreux. On a dit, tous les mâles, là, les petits, il faut les exterminer. Donc, ils étaient vraiment dans une situation compliquée. Et c'est vrai que si, à l'époque, ils regardaient dans cette situation, certainement que ça a eu une influence sur leur attitude, sur leur mentalité et tout. S'ils repartaient là-dedans, ben, c'est sûr que entrer dans une terre promise, non. C'est juste pas ce à quoi ils étaient habitués pendant des décennies. Donc, il y a le monde des Égyptiens et de l'autre côté, il y a le monde des Israélites, un peuple avec un Dieu unique. Et là, Dieu, il est en train de se révéler à ce peuple. Alors, ils étaient en souffrance, ils ont pleuré, ils ont crié, Dieu a répondu, ils se sont rappelés qu'ils avaient une histoire, Joseph, les patriarches et tout ça. Ils ont une identité de peuple. Malgré tout, ils ont prospéré parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux, même malgré les travaux forcés, l'esclavage et ces enfants qu'on voulait tuer, qui étaient tués par les Égyptiens. Il y a eu les 10 plaies, il y a eu la libération, assez incroyable, il y a eu la Pâque, donc l'ange du Seigneur qui passe par-dessus les maisons qui ont un taux avec du sang, et il y a eu d'autres signes. Alors s'ils regardent à ce Dieu-là, bien sûr qu'ils vont entrer dans la terre promise, avec cette mentalité-là, parce qu'ils y entrent pas tout seuls, ils y entrent avec Dieu, c'est leur foi, elle est en Dieu. Ils auront la motive, quoi. Ils vont pas trop hésiter. Alors, on voit Caleb et Josué. Là, Josué, on l'entend pas trop. Hein. Josué, ça devait être est devenu général des armées après. Ça devait être un gars très fin d'esprit, très intelligent. Et puis, il y avait de toute façon Caleb à côté qui voilà. Mais Caleb, en fait, avec son attitude, il révèle la manière dont le reste du peuple devrait penser. Alors c'est pas toujours facile de regarder à la deuxième partie de Psaume 73. Donc on est rentré du Tchad à fin mars, début avril. On a préparé notre départ, on a fait nos valises, on a remis les clés, on pense ne plus y retourner, donc on a donné nos dernières volontés, si on peut dire comme ça. Et puis voilà, on a dit au revoir, on a commencé à se lâcher là comme ça, voilà, on a fini notre mission là-bas, puis quelque chose d'autre va venir, et on s'est réjoui de retrouver la Suisse. Et puis l'après-midi du départ, on va prendre le test Covid, et puis voilà que je suis positif. Oh non. Ah, je vous dis que c'était plutôt la partie 1 du psaume 73. Si j'avais parlé à Dieu, je lui aurais dit des mots d'oiseau. Parce que là, je me dis, mais comment, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais, t'as toute puissance et tout ça, là, ça marche pas, quoi. Et puis après, je me suis dit, ah, dans ce pays, on peut toujours s'arranger. Donc, j'ai cherché des moyens pour... Après, non, c'était pas le truc. Et j'ai dit, c'est vrai, Dieu, il intervient aussi par des hommes et des moyens, quoi. Bon, voilà. Toujours est-il que je suis resté une semaine de plus que mon épouse. Mon épouse devait rentrer parce qu'à l'arrivée en Suisse, elle avait déjà un job. Alors, on était au milieu du Tchad, elle a eu son entretien d'emploi dans un coin perdu. Et puis, elle arrive, puis 4-5 jours plus tard, elle travaillait à Couvet comme physio. Alors, Dieu pourvoit. Ça, c'est la partie 2 du psaume 73. En attendant, cette semaine est obligatoire, enfin, voilà. Ben, j'avais Covid, donc je suis quand même un peu resté caché pendant 3-4 jours. Et puis, j'ai ouvert un livre de Simon Paco sur l'évangélisation des profondeurs, et ça m'a fait un bien. J'étais tout seul, planqué, personne ne demandait rien, tout le monde pensait que j'étais déjà loin, sauf les proches. Et puis, c'était très bien pour moi, en fait. Et puis après, ben, je suis quand même sorti parce que je me sentais pas du tout mal. Et puis, j'ai continué pouvoir travailler avec celui qui me succède dans certains domaines, et c'était très positif en fait que je reste là. Mais sur le moment là, là j'aurais pas tenté la terre promise là, c'est sûr. Deux jours après, Jeanne-Marie m'appelle et puis elle me dit: ah, je suis en bonne compagnie. Ah ouais, tu es. Puis elle me montre une photo. Il y a Alex, notre fils aîné, sa charmante épouse enceinte, et puis notre petite fille. Alors là, j'ai dit non. Alors que c'était l'heure de la sieste, je suis allé à la sieste, j'ai dormi 2 heures. Voilà. Et puis, des fois, on est dans des, on n'a pas toujours envie de gagner, de se battre, et puis il y a des choses qui nous foutent en bas, enfin, qui nous, pardon. Donc, il y avait même un peu de révolte contre Dieu. Tant on t'a servi, là, pendant toutes ces années, c'est moi, puis là, comment on peut faire ça? Et c'est vrai, mes parents, maintenant, on réapprend à les connaître de plus proche. Et puis, ils ont eu un accident, mon père, il a eu un truc de la santé. Puis on se dit, mais pourquoi ça? Et c'est un peu révoltant, finalement. Parce que, voilà. Mais ça, c'est génial de voir leur attitude dans tout ça. Parce qu'ils sont simples dans leur foi. Ils font confiance. Et puis, ils sont dans le psaume 73, deuxième partie. Et puis, c'est juste, c'est la même situation. Mais leur attitude fait que, ils restent contents. Et puis, c'est un plaisir d'aller leur dire bonjour. Et puis, voilà, quoi. Alors, depuis juin, je recherche un emploi. Je me réveille pas tous les jours avec seconde partie du verset 73. Mais quand même, cette prédication, la préparation, ça m'a rappelé certaines choses. Et que, notre foi, en fait, c'est une foi, quoi. Il faut, c'est bien de la mettre en pratique. Donc, Israël a regardé aux circonstances au lieu d'obéir à Dieu et recevoir ses promesses. Alors, la génération d'après, c'est 40 ans plus tard. Elle, quel est son vécu? Quelles sont les circonstances dans lesquelles elle est en train d'évoluer? Bon, j'essaie d'imaginer, quoi. Donc, tous, ils ont plus de 20 ans, parce que la génération est morte. Hein, ils ont tous plus de 20 ans. Enfin, tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts pendant les 40 ans dans le désert, sauf Caleb et Josué. Ils connaissent l'histoire de la sortie d'Égypte, parce que leurs parents, certainement, ils leur ont raconté tout ça. Ils ont connu la colonne de nuée, de feu. Ils ont connu les mannes, les cailles, les sources d'eau. Ils ont connu l'instauration du tabernacle. Le peuple s'est organisé. Il y a eu l'instauration des règles de culte, de l'organisation des sacrifices, du déroulement des fêtes, du rôle des lévites, des 10 commandements, des règles de vie communautaire, de la loi sur les vœux, la loi sur les héritages, les lois sur la conquête de Canaan. La conquête s'organisait. Ils étaient vachement mieux préparés la deuxième fois que la première. Il y avait des instructions pour le partage du pays, dont 48 villes pour les Lévites, qui avaient une fonction sacerdotale particulière, et 6 villes refuges. Il y avait une... Alors on pense des fois que Dieu il a rien fait pendant les 40 ans d'Israël, je pense que c'est pas vrai. On peut lire que Dieu il était très actif. Et puis il a fait beaucoup de choses et il a préparé ce peuple-là à assurer la conquête qu'il avait prévue. Ils ont connu aussi qu'est-ce qui arrive si on murmure contre Dieu. Ah, il y a des textes durs dans l'Ancien Testament. Ils ont connu les révoltes, l'effet des révoltes. Ils ont connu ça fait quoi de désobéir. Ils ont connu ça fait quoi de mépriser l'Éternel. Ça fait quoi d'adorer d'autres dieux. Ça fait quoi d'être idolâtre. Ça fait quoi d'entrer dans la débauche. Et tout ça, aujourd'hui, pour nous, c'est des moyens pour apprendre. Pour apprendre, on est dans une ère de grâce, on est bien d'accord, on n'est pas le jour du jugement, on est dans une ère de grâce, mais ça nous donne quand même une idée du caractère de Dieu et en qui on met notre foi. Ils ont aussi vu la protection contre les malédictions. Souvenez-vous, quelques-uns ont mandaté Balaam pour maudire Israël. Et puis, c'est un vrai prophète. Du coup, il n'a pas arrivé à maudire, parce que c'est un peuple béni de Dieu. C'est un vrai prophète. Il a juste béni le peuple. Ils ont eu des victoires militaires aussi. Donc, ils sont pas arrivés comme ça avec une fourche, mais sûrement ils avaient des armes. Et puis, voilà, ils étaient prêts. Et il y a eu le décès d'Aaron et de Moïse. Donc les deux, ils se sont énervés une fois de trop. Voilà. Et puis dans sa justice, Dieu, il a dit, vous allez comme les autres, vous allez pas entrer. Là, Dieu, il voulait se révéler comme un Dieu juste, un Dieu qui sauve, un Dieu qui combat, un Dieu vainqueur, mais un Dieu juste aussi. Alors cette fois, Josué. Donc Josué qui était espion, maintenant il est devenu général, chef, c'est le remplaçant de Moïse. Et puis il envoie deux espions. Il a pris la première fois, il envoie que deux espions. C'est un gouvernement sûrement un peu plus fort, plus centralisé, plus militaire. Et puis il les envoie explorer le pays, surtout Jéricho. C'était là que le peuple allait commencer sa conquête. Alors les deux, ils reviennent, Josué 2, 24, et les espions disent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Ah là, on voit que les sauterelles, hein, elles ont changé de camp. C'est plus pareil. Donc on se dit que cette deuxième conquête, quand même, elle est plus possible. D'une part par l'attitude du peuple, mais aussi parce que les circonstances. Dieu a changé les circonstances. Et puis nous dans notre foi, on peut être comme un Caleb, mais Caleb il a pas changé durant ses 45 ans entre la première là, enfin 40 ans. Mais il a dû quelque part attendre. La première fois, c'était pas bon, les autres ils étaient pas prêts et tout. Donc voilà. Alors la conquête démarre, il y a quelques tribus, quelques territoires qui sont conquis. Conquis, voilà, pardon. Et puis là, c'est le moment de conquérir d'autres territoires. Et là, les Judéens, donc Caleb, c'est le chef de tribu des Judéens. Les Judéens s'approchent de Josué. Et puis Caleb lui dit, ah, rappelle-toi, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse m'a envoyé explorer ce pays. C'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit ça à Moïse, et maintenant j'en ai 85 et je suis toujours robuste. J'ai autant de force que j'en avais à l'heure. Alors, qu'il s'agisse de combattre, qu'il s'agisse de partir qu'il s'agisse de revenir au combat, c'est comme avant. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Là-bas, il y a les Alakim, donc ces fils de géants et machin. Et puis, il y a des grandes villes fortifiées. Ça, c'est Caleb, là. Ah, cette fois-là, il va pouvoir, voilà. Et là, Caleb, il a une parole. On voit que Caleb, il a un caractère. On n'a pas tous ce caractère de gagneur comme Caleb, heureusement peut-être. Mais en tout cas, là, on voit que Caleb, il est selon Dieu. Et là, il dit si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Et là, on voit que Caleb, il met sa foi en jeu. Si, alors comme l'Éternel l'a dit. Et il est en train de dire, si je livre le bon combat, alors voilà. Josué bénit Caleb et lui donne Hébron pour héritage. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Et on en parle encore une fois plus loin dans la Bible de Caleb. C'est dans Juges 1, 12, 20. Caleb, il est en train de penser à sa descendance, à assurer la suite, là. Et puis, il dit, il cherche un gendre, il cherche un beau-fils qui, voilà. Et il est sûrement aussi inspiré, mais il dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Donc, je sais pas si c'est une ville ou une région, mais en tout cas, celui-là, le combattant qui montre ses biscottos, qui arrive à, à gérer une armée, qui arrive à motiver les autres, qui arrive à... Voilà, ben celui-là, il pourrait épouser ma fille. Et Caleb, c'était pas n'importe quoi. Puis à l'époque, la mentalité, l'organisation de la société est un petit peu différente. Donc, marier la fille de Caleb, c'était quelque chose, quoi. Et donc, voilà, Caleb, il s'empare de cette ville, de cette région. Othniel, donc c'est Othniel, voilà. Et donc c'est Othniel qui devient gendre de Caleb. Et puis, Othniel sera le premier juge d'Israël. OK? Et ce premier juge, si on regarde un peu l'histoire des juges, on voit qu'Israël a passé un temps béni durant cette période avec Othniel. D'une part, le peuple d'Othniel avait une attitude envers Dieu, avait foi en Dieu. Et d'autre part, Othniel, c'était quelqu'un qui avait eu un beau-père assez extraordinaire et qui avait certainement bénéficié de son expérience et de sa vision du monde et de tout. Et là, on voit que Caleb, il a une fille qui est très maligne, donc Aksa, devenue femme de Caleb. Et puis, dès son arrivée chez son mari, chez Othniel, elle le persuade de demander un champ à son père. Elle lui dit... fais-moi un cadeau, donne-moi les sources supérieures et les sources inférieures. Ah, intelligente la fille, hein. Source supérieure, on peut irriguer, source inférieure, on peut irriguer. C'est une famille très forte. Voilà, si on peut passer le quelques photos. On va essayer d'actualiser tout ça parce que voilà, on est dans une autre époque, on n'est pas dans le cas du peuple d'Israël à combattre avec des armes pour entrer dans une terre promise. Mais quand même, le caractère de Caleb et quand même l'histoire d'Israël nous apprend des choses. Voilà, suivante. Voilà. Alors, un petit Caleb. Bon, j'ai pris ces photos sur le net. Le petit Caleb, c'est un gagneur, quoi. Bah, il a l'air tranquille, calme, sûr de lui, à moi la victoire. Cool. Bon, la Bible nous dit que parfois on doit être comme des enfants, hein. Et c'est un petit peu bizarre parce que nous, on a toujours l'impression qu'on doit être, qu'on doit gagner, qu'on doit faire, qu'on doit je sais pas quoi pour être victorieux. Et puis après, on va lire dans 1 Jean. Dans 1 Jean aussi, c'était une époque où il fallait prouver que, il fallait gagner l'assentiment des dieux. Et puis là, on a ce petit gars-là. Alors, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite, hein, parce qu'il n'est pas arrivé au bout de sa vie, là. Donc, c'est bien de prier pour les enfants, pour que, voilà, il aura des combats à gagner, et puis que Dieu lui aide à faire ses combats avec la foi. Deuxième, une coureuse. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit une femme, une athlète du Brésil. Elle a le physique de quelqu'un qui fait plutôt du sprint, court distance. Et il y a quelques particularités, elle a un bandeau sur les yeux. Donc on peut se dire, elle est aveugle. On peut interpréter là. Je pense pas que dans les courses normales, on se met des bandeaux sur les yeux, non. Elle est aveugle et puis il y a un détail qu'on voit pas trop malheureusement, c'est à sa gauche là, il y a une main qui la tient. Elle est pas toute seule. Et par cette image, j'aimerais juste, un peu en réfléchissant à Caleb, dire ben chacun a ses limites en fait. Elle est en train de gagner quelque chose. Elle a gagné une victoire dans ses limites. Et je pense que chacun de nous, on est appelé, pas tous à être des super Caleb. Enfin, si on se compare aux autres, et c'est pas une chose que la Bible recommande de faire. Mais on a des victoires chacun à gagner. Suivante. Lui, c'est un vieux Caleb, un plus vieux Caleb. Est-ce que vous l'avez reconnu?
Oui.
Oui, c'est qui?
Zizou.
C'est Zizou, bravo. Alors Zizou, là, il est entraîneur du Real Madrid. Avec ce club, il a gagné 2 fois la Champions League, qui est la ligue la plus élevée en Europe. Avant, il était joueur. Et son dernier match, je pense que tout le monde connaît l'histoire, son dernier match, c'était à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Il était élu meilleur joueur du tournoi, hein, la Coupe du Monde, la Coupe la plus élevée, lui, là, Zizou, meilleur joueur. Mais il a mal fini la finale, c'était la France contre l'Italie. La France a perdu au tir au but, non, l'Italie a gagné au tir au but. Et puis, lui, pendant les prolongations, il a eu un échange avec un Italien, et l'Italien lui a pas dit des choses gentilles, et Zizou, il a donné un coup de boule dans le thorax de l'Italien, et l'Italien, bouf, s'est affaissé, et Zizane est sorti avec un carton rouge. C'était le dernier match de sa carrière de football. Alors là, il aurait pu se dire, le football, c'est fini, j'ai donné, voilà, débrouillez-vous, que le monde du foot se débrouille sans moi, quoi. Au lieu de ça, il a fait des formations pour devenir entraîneur, et puis voilà, il est devenu entraîneur d'une grande équipe. Suivante. Voilà, ça c'est juste pour montrer que dans les combats, c'est des combats. Ok. Suivante. Et là, un autre style de victoire, c'est en Écosse, et la dame a vaincu quelque chose au niveau politique, je sais pas quoi. Mais voilà, il y a différents combats à mener. Suivante. Voilà. On va passer dans le Nouveau Testament, je vais finir par là. Mais Jean a écrit aux lettres des églises. Jean, le vieux papa, le patriarche, le dernier disciple, Saint Jean, l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé. À cette époque-là, c'est l'Empire romain, c'est pas une situation sainte non plus. Il y a des invasions, il y a des déplacements, il y a des populations en migration, il y a un gros mélange. Et puis, il faut cohabiter. Et à ce moment-là, le monde était inclusiviste au niveau religieux. Tout est possible, tout est accepté. Et donc, les chrétiens allaient au mieux avec leur foi en un seul Dieu unique, Jésus-Christ, un peu fermé, orienté sur une seule personne. Ils sont un petit peu isolés. Il y a aussi le culte à l'empereur. Il y a les faux dieux. Il y a les religions en mystère. Il y a l'occultisme. Il y a les sectes centrées sur la connaissance et tout ça. Et là, Jean, avec son autorité d'ancien, là, au verset 3, « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. » Dans quelques semaines, le 24 septembre, a lieu la journée de Portes Ouvertes à Yverdon. Vous connaissez Portes Ouvertes, c'est une association qui informe, qui vient en aide aux chrétiens persécutés et qui les encourage dans leur foi. Alors on se dit que la fin du verset 3, « Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. » Je ne sais pas si on peut toujours adhérer à ça. Vous êtes d'accord? On se dit des fois, « Oh là là !» Et on peut comprendre ce verset que par la foi. Si on a la foi, alors marcher avec Christ n'est pas un fardeau. Je pense que, enfin, j'y réfléchis un peu, hein. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. Si on est dans la deuxième partie du psaume 73, alors ça devient léger. Si on essaie de vivre notre vie en Christ sans la foi, Ça devient la première partie du psaume 73. Le verset 4, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Retour à l'histoire que je viens de raconter avec Israël. C'est par la foi qu'ils ont conquis. C'est rien d'autre que par la foi. Ça veut pas dire qu'ils ont rien dû faire, mais c'est par la foi qu'ils l'ont fait. Une citation de John MacArthur, la foi qui sauve ne se résume pas à une connaissance intellectuelle des faits de l'Évangile, mais suscite plutôt un engagement permanent et sans réserve envers Jésus comme Seigneur, Sauveur, Messie et Dieu incarné. Nous avons à nous battre contre le monde. Même si c'est pas très cool de dire ça, mais... Le monde, c'est quoi? C'est un système qui s'oppose à Dieu, à son action. Satan, il s'intéresse à nous, il s'intéresse à détruire notre foi, il s'intéresse à nous mettre dans la première partie du psaume 73, mais il s'intéresse aussi au système dans lequel on vit. Réfléchissez à Israël, du temps des Égyptiens, quel drôle de vie il devait avoir. Et réfléchissez à Israël au moment de quand ils avaient leur territoire, quand ils avaient une présence de Dieu. Et Il faut combattre pour arriver à ce genre de plénitude ou d'environnement qui est propice à l'explosion de notre, au florissement de notre foi. Et donc, on a des combats à livrer aussi pour nous-mêmes. On a des combats aussi à livrer en tant que groupe, en tant qu'église, en tant que nous influençant sur notre entourage dans la ville ou ailleurs. Ce qu'a fait bouger Caleb, c'est la foi. Verset 5. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pour conclure, Caleb, ça veut dire chien. Alors un commentateur a dit, bon, avec un nom pareil, il est mal parti dans la vie, Caleb. Il aurait pu rater sa vie à cause de son prénom. Bon, il y a d'autres commentateurs qui disent, en fait, ça pourrait être aussi le cœur. En arabe, on dit kalb, ça veut dire chien, puis kalb, le cœur. Bon, je sais pas, Mais on peut dire que Caleb, il avait la rage avec la folie canine. Il était orienté par son cœur renouvelé par Dieu. Et puis Caleb, il avait du chien. Il avait du cœur. Dans toutes nos situations, que nous puissions être bénis pour avoir du chien et du cœur pour notre Seigneur dans tous nos combats de tous les jours. Et pour terminer, Romains 8, 31, un verset hyper connu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Soyez bénis.